Chères auditrices, chers auditeurs, vous allez écouter la partie 2 de l'épisode 3, deuxième saison. Cet épisode 3 donne un sens au titre du podcast « Le jour d'après ». Où allons-nous? Comment fait-on après un drame? Sommes-nous utiles? Sommes-nous restés sur le quai de la gare? Avons-nous laissé passer des trains? Est-ce qu'on est capable de se raccrocher à un wagon? Qui sommes-nous? Toutes ces questions existentielles après un traumatisme qui sont nécessaires à une reconstruction. Associations, structures, soins de support, thérapie, bref, sport, art-thérapie, sophrologie, sont des atouts pour vous reconstruire. N'hésitez pas, parlez, partagez, vous n'êtes pas seul. Le jour d'après est une fiction inspirée de faits réels. Place à l'écoute, épisode 3, la fin des chapitres. De retour à Paris, je n'ai plus voulu perdre de temps, ne plus perdre une seconde de ma vie. J'ai contacté une avocate afin de demander le divorce. Être séparée sous le même toit, c'est comme se retrouver bloquée avec un abonnement Canal+. Il était temps de s'occuper de la résiliation. J'ai eu une bonne impression lors de notre premier rendez-vous. Elle a essayé de me pousser dans mes retranchements afin d'être sûre que je veuille un divorce à l'amiable. Justement, je voulais en finir, balayer toute cette horreur et tourner la page. Je mérite d'être heureuse et de vivre pleinement. Je ne veux pas de guerre, je ne veux plus de souffrance s'il y en a déjà eu suffisamment. À ma réponse, l'avocate m'a dit
« Vous êtes prête à divorcer. Pour vous, votre mariage est réellement fini. »
Cette phrase m'a marquée et j'ai ressenti un sentiment de fierté. J'y suis. Enfin, je suis prête et c'est bel et bien fini. Et l'avocate est devenue mon avocate. J'ai pris des rendez-vous pour des thérapies brèves afin de me remettre vite sur pied et me construire en tant que femme. EMDR, hypnose, sophrologie, tout en continuant à être suivie à l'hôpital de cancérologie. Apprendre à respirer, à écouter son corps était nouveau pour moi. Je suis souvent à bout de souffle, j'oublie de respirer, et les boules se forment et l'angoisse monte. J'apprends aussi à être une maman solo, comme on dit, être célibataire. Ce mot me faisait peur avant, mais en le regardant bien en face, j'ai découvert qu'il y a les lettres de la liberté. Et ça, c'est fort comme sentiment. La préparation des vacances est une véritable organisation pour les Wonder Mamans. J'enfile ma cape et je raye un à un les éléments de ma to-do list. Nous passons les meilleures vacances que nous ayons eues ensemble. Ma fille me fait la remarque. Il n'y a pas de stress, pas de cris, on respire, on souffle, on sourit, on va bien, on va mieux. Personne pour dire que ça ne va pas, personne pour râler, personne pour crier, personne pour nous gâcher nos moments. Une de mes sœurs, Alice, est avec nous et c'est une vraie semaine de partage. Nous sommes sportives toutes les deux et nous inscrivons à plein d'activités. Du yoga au tir à l'arc, on n'arrête pas. J'avais repris la course à pied avant de partir chaque soir afin de dégager les mauvaises énergies et de me préparer à la cadence de la montagne. Mais mon cardio a beaucoup diminué et je me sens douloureuse de partout. La prise d'hormonothérapie ne laisse pas le corps indifférent. Et je m'énerve de ne plus être aussi performante. Alice me propose un saut en parapente. J'ai toujours admiré ceux qui osent et j'en rêvais quand je les voyais flotter dans le ciel. J'accepte avec le ventre déjà serré et l'appréhension de l'extrême, même si je ne suis pas sujette au vertige. Faire ce pas, ce saut dans le vide vers l'inconnu est symbolique pour moi. Aller au-delà de ma zone de confort, de mes peurs. Je dois le faire, me prouver que je suis capable. J'ai autant détesté ce moment qu'adoré. J'ai eu envie de vomir tout le long. J'ai à peine parlé à mon moniteur qui était habitué aux nausées et vomi en plein vol. Quand il m'a passé les commandes, le mal au cœur est passé et j'ai pu assister à un spectacle incroyable. Être près du ciel m'a fait penser à Mélodie et j'ai relevé la tête. En atterrissant, j'étais fière de moi et j'ai attendu ma sœur qui avait décollé peu de temps après nous. Vu sa blancheur, elle a eu les mêmes soucis que moi. Nous avions eu, je vous le confirme, le mal de l'air. Chaque soir, je prenais mon thé en regardant le soleil passer derrière les montagnes. Ce moment de recueillement était devenu important. Des détails de vie que nous ne prenons jamais le temps de vivre. On prend conscience du beau, du temps qui passe, de la chance que nous avons d'être en vie quand on a côtoyé la mort. Je ne pense pas qu'on puisse en être conscient autrement. Ma vie est devenue un émerveillement permanent. Nous avons dû rentrer de la montagne avec regret. J'ai choisi de laisser ma fille partir avec une amie afin de gérer mes émotions, faire les démarches, finir d'écrire, et qu'elle n'en soit pas le témoin ni la supportrice. Être séparée d'elle à un tel moment de vie n'a pas été facile mais nécessaire. Elle devait passer des vacances de son âge, dans l'insouciance que l'adolescence lui offrait. Elle a d'ailleurs testé les limites des interdits, certainement pour attirer notre attention. Les bêtises se sont enchaînées. La mère de son amie m'a téléphoné pour me dire qu'elle avait déjà fait le mur deux fois. Elle m'a ensuite demandé de venir récupérer ma fille car elle ne pouvait plus la gérer, cela devenait dangereux. Elles avaient tellement bu qu'elles avaient vomi dans les différents recoins de la maison. Son ami était proche du coma éthylique. Salomé, ne sachant pas quoi faire, a nettoyé et soutenu son ami qui l'a supplié de ne pas réveiller ses parents. J'ai dû accepter d'entendre que ma fille avait une mauvaise influence pour son amie si sage et innocente. Qu'elle devait être perturbée et en colère. Bref, une enfant de futur divorcé. Cela me ramène à des douleurs d'enfance. J'ai souvent été vue comme une enfant à problème, une enfant pas stable, une enfant divorcée. On remet moins en cause un enfant avec une famille dite « normale ». Aujourd'hui, le divorce est pourtant d'une banalité tragique, mais les victimes de ces séparations en sont encore stigmatisées. De mon côté, j'avance de façon épisodique, niveau administratif et émotif. Tout l'été, j'entreprends des démarches, entrecoupées par des séjours réparateurs. Les différentes psychothérapies me font grandir et ouvrir les yeux. Il y a des mots qui décrivent toutes ces années vécues. Il y a des mots qui décrivent cet état de détresse constante dont j'ai été victime. Entendre ces mots n'est pas si simple et me fait rentrer dans une grande colère dirigée contre moi. Plusieurs amis sont présents quotidiennement. Très vite, je les ai surnommés mon armée. À la tête de cette armée, il y a Mathias. Le lendemain de la séparation, je sortais de mon immeuble la tête baissée et je l'ai percuté. Mathias était devant moi, moins étonné que moi de le voir dans mon périmètre. Il avait suivi via les réseaux sociaux mon arrivée dans ma nouvelle ville. On s'était connus au travail, dans une ancienne boîte où j'avais fait une apparition furtive et où il m'avait formée. Notre rencontre avait été la seule chose que j'avais retenue de cette expérience. Il était un ancien collègue coup de cœur, comme on en a peu dans une vie. Il m'apprend qu'il habite depuis plus de 10 ans l'immeuble à côté du mien. Je suis sautée dans les bras de ce saut de sauvetage, de soulagement. Il est là, et il restera jusqu'au point relais. Il est de ceux qui vont me faire régurgiter tout ce que j'ai de mal en moi et me tenir les cheveux. Il va me coacher, me bousculer, trouver les mots. Il me fera réfléchir sur la nécessité de se rajouter du stress et des angoisses dans la vie. Réfléchir sur ce qui a été et sera. Peu à peu, il repoussera mes craintes et me donnera la clé d'une nouvelle vie de femme forte et fière de son parcours. Il m'a toujours encouragée et m'a toujours dit qu'il croyait en moi et mon talent. On me l'a peu dit dans ma vie et ses mots me donnent des ailes. Je retourne chez mes parents pour terminer d'écrire. Être au calme, au bord de la piscine, sans contrainte, sans obligation, me fait avancer sereinement. Raconter Mélodie la fait revivre, la fait rechanter, la fait redanser. Je pianote une partie de sa vie, une partie de notre vie que nous avons eu la chance de partager ensemble. Chez mes parents, je fais mon deuil. Le deuil de ma famille, le deuil de mon amitié, le deuil de mon travail, le deuil de mon cancer. Écrire est ma thérapie et je pleure tout ce que je n'ai pas pleuré durant cette année et demie. J'ai fini dans un état pitoyable, je suis remuée, mais les 150 pages des 9 podcasts sont devant moi. Mon beau-père me les a imprimés, les tas de feuilles est sur la table à manger et je contemple le travail accompli. Surprise d'y être arrivée. J'ai été portée pendant tout le long par Philippe, Evelyne, Mélodie, l'association, nos productrices et mon armée. Sans eux, rien n'aurait été possible. La dernière lecture en visio est intense. Toujours composée du même jury afin de valider et boucler l'écriture des derniers épisodes. Plus personne ne parle, je les observe se dandiner sur leurs chaises. Les larmes coulent, les bouches s'ouvrent, mais aucun son n'en sort. Il n'y a rien à changer, rien à dire, juste à ressentir. Nous sommes prêts pour l'enregistrement, c'est une première étape terminée, mais l'aventure ne fait que commencer. La première partie du jour d'après est écrite. Je rentre à Paris, je retrouve ma fille. Notre duo mère-fille se reforme. Quelques jours plus tard, j'apprends que pendant ses vacances avec son amie, elle a avalé dans un geste de désespoir 16 grammes de paracétamol. Elle a voulu en finir avec sa vie. Elle a voulu en finir avec ses souffrances. Je bascule complètement. La peur de la perdre, la peur de devoir continuer sans elle me met en colère. Alors je crie. Elle a voulu m'abandonner. Et je me dis que pour en arriver là, j'ai dû l'abandonner aussi. Je suis au fond du gouffre, je n'ai plus de repères et je ne sais plus quoi faire. J'ai aidé les autres, mais pas ma propre chair, pas mon sang, ma vie, tout ce que j'aime sur cette terre. Je n'ai pas vu qu'elle souffrait. Je suis passée à côté d'elle. Dans un premier temps, je suis dans l'urgence et l'efficacité, pédiatre, radio, écho, prise de sang et psychiatre. Je préviens son père en lui disant qu'elle ne souhaite pas en parler. Il ne rentrera pas de ses vacances et ne l'appellera pas. Même pas un message. Ce non-acte signera la fin de toute relation possible. Il n'y a plus de famille, plus de père. On appelle ça un acte manqué. Fatal. Je sais à cet instant qu'il va falloir que je gère pour deux, et je ne sais pas si je suis à la hauteur. Elle me dit que son père est mort pour elle. Ces mots sont violents, mais j'ose croire que cela sera provisoire. Quand les blessures seront pansées, elle y repensera. Il est temps de commencer à les soigner, à comprendre d'où elles viennent. Peut-être de les réouvrir afin de bien les refermer. Nous allons entamer notre reconstruction à deux. Alors, je lui dépose notre carnet bleu sur son oreiller. Épisode dédié à Mon Armée et aux associations Skin, Jeunes et Roses, Étincelles et Les Roses Poudrées. Épisode joué par Karina B dans le rôle de Catel, écrit et imaginé par Karina B, produit par l'association Demain.